Lacombe Charles Lenormand. C'était le petit-fils d'un archéologue féru des monuments d'Égypte et de Chaldée que Mérimée avait tenu en haute estime. Son fils lui-même, le père de Charles, auteur à 14 ans d'une lettre à M. As sur les tablettes grecques trouvées à Memphi, avait poursuivi les mêmes recherches. Puis il avait consacré ses dernières années à l'Institut et à son fils. Charles Lenormand avait travaillé dans la bibliothèque de leur château du Bugey, où de grandes boîtes en carton renfermaient des papyrus et des spécimens d'écriture cunéiforme, et sur les travées de laquelle des dessins jaunis montraient certaines des plus belles céramiques de l'Antiquité. À la mort de son père, il avait pris sur le conseil d'un chirurgien de Lyon le chemin de la faculté de médecine. Il s'y était très vite signalé. Son apparence juvénile le rendait populaire. Interne, il paraissait lycéen, chef de clinique, à peine étudiant de première année. Quand il fut désigné pour siéger au jury du prosectorat, les huissiers le refoulèrent vers la salle où les candidats attendaient. Toujours gai, presque primesautier, il savait pourtant prendre un air d'autorité. Le regard étonné, anxieux de tout, il voulait aller à l'essentiel et tirer rapidement les leçons des maîtres. Son enfance avait été lente, il se rattrapait. Le temps des étés paresseux du Bugey était révolu. De Pierre dont il avait été l'interne, il se souvenait d'avoir appris chaque jour quelque chose, de n'être pas arrivé au bout de l'homme ou du chirurgien. Augustin croyait que son allant ferait équilibre à la prudence de Lacombe. Et puis il goûtait sa finesse et cette immense culture héritée du passé dont Charles Lenormand ne faisait jamais état, réservant pour ses proches ce beau jardin inutile. Après quelques mois de travail en commun, Augustin prit l'habitude de l'emmener dîner chez son père. La journée accomplie, il se taisait et, fumant sa pipe, les écoutait parler de l'Égypte du rêve et des découvertes de Champollion. En Lenormand il y avait du dandy, un rien de pose, mais la grâce de ses manières faisait tout pardonner. Alors Augustin Pierre donna toute sa mesure. Il fit nettoyer le service, prescrivit l'asepsie, menaça d'expulsion les religieuses qui refuseraient de se soumettre. La tradition veut qu'il ait répondu à leurs supérieurs qui lui parlaient de leur mission et de la charité, « Jean-mère de la charité, ma mère, jusqu'à ce qu'elle sauve ». Pourtant il était rarement grossier. On se souvient encore de ses diagnostics. Il se refusait à envoiler le mécanisme, à les auréoler de mystère. Il riait de l'inspiration. Parfois, comme Dupuytren, il s'éloignait sans conclure, réservé, silencieux. Excellent opérateur, héritier en cela d'Alcossé, il se portait contre la difficulté de toutes ses forces, choisissant ses chemins avec une sûreté d'anatomiste. Dès l'extirpation achevée, il poursuivait toujours la réparation avec une minutie et un goût de la perfection qu'il disait tenir de l'enseignement célèbre de Terrier. Là encore, il se refusait au mime, à la figuration, au costume, à la calligraphie. Il accomplissait des gestes nécessaires. L'emphase lui était étrangère. Sa curiosité scientifique profonde et continue était un exemple pour tous. Il aimait les preuves avec les affirmations, comme une politesse élémentaire. Une journée qui ne lui apportait pas un fait nouveau sur lequel s'interroger n'était pas tout à fait belle. C'est par cette constance qu'il dominait son entourage, car au fond Augustin Pierre n'aimait pas commander. Il n'avait aucun sentiment de la hiérarchie, aucune ivresse d'autorité, et renonçait le plus souvent aux satisfactions élémentaires qu'elles procurent. La simplicité, l'indépendance, le goût de la solitude se conjuguaient chez lui pour l'empêcher d'aimer le commandement. Cela lui valait d'ailleurs une manière de prestige. Très vite il fut d'autant plus respecté qu'il se refusait à en imposer par l'apparence. Le personnel s'étonnait qu'il eût, à son âge, une vie si retirée, les soirées passées à lire dans son appartement ou chez son père place Saint-Sulpice, et désormais, quelques jours par mois dans le Berry. Il paraissait ne plus se donner la comédie depuis longtemps. Il pouvait s'indigner, l'affaire de l'asepsie en fournit un exemple. Il n'avait pas peur des êtres et des mots, mais de l'erreur et de l'ennui. Les imposteurs du métier ou de la vie l'atteignaient au plus vif. Il ne s'était pas habitué à l'injustice qui règle les réputations et gardait une méfiance d'adolescent devant toutes les gloires. S'il avait tant de réserves, c'était par tempérament bien sûr, mais aussi parce qu'une certaine prudence en tout lui paraissait souhaitable. Il buvait sec, parlait peu, fumait trop, jouissait de la vie mais sans s'éloigner du chemin qu'il avait choisi. Au chevet des malades, il donnait son meilleur. Il se tenait près de longtemps comme s'il s'instruisait de ce que la maladie leur avait appris. Beaucoup s'en trouvaient soulagés sans comprendre pourquoi. À cette époque, Augustin était heureux. Bien sûr, la vie les disperserait, infirmiers, malades, médecins, et la mort ferait le reste, tôt ou tard, avait coutume de dire Lacombe d'un air fin, mais Augustin s'en moquait. Entre tous, le sentiment d'être la groupée, à plusieurs, pour faire le nécessaire, lui était précieux. Et les mots rarement graves qu'il prononçait. Et leur rire du matin, quand ils se retrouvaient satisfaits de commencer ensemble une nouvelle journée, de sentir l'eau de Cologne et de n'être pas mort. Parfois, aux prises avec cet amas de besogne dont il se chargeait sans hésiter, l'irritation le saisissait. C'est dans un de ces moments que la supérieure des hospitalières de la Pitié l'avait entendu vitupérer la première des vertus théologales. Un flatteur, un fonctionnaire ou quelque résistance accumulée, en complot, comme il disait, le rendait soudain violent. La paix ne revenait que lorsqu'il avait trouvé les mots appropriés à l'incident. Il lui arrivait d'user d'un langage pittoresque, puisant dans ses lectures favorites. Tel visiteux ou telle infirmière était Gargamel ou Badbec. Tel autre lui rappelait la lamentation des tourterelles. Devant quatre élèves surpris, il évoquait l'embûche des farfadets. Jamais pédant ni pluvieux, il plaisait aux plus simples par sa familiarité et sa puissance, et aux autres par ce don qu'il possédait de disposer d'un désagrément par une image inattendue. C'est avec Klein surtout qu'il se livrait à ses exercices. Leur déjeuner rituel de la